Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce jeudi 29 juin 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. L'Occident impliqué dans l'attaque chimique à Sardasht. Vous pouvez écouter ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Restez avec nous. La force de défense aérienne de la République islamique envisage de produire des équipements militaires sophistiqués à longue portée pour faire face aux menaces potentielles de l'ennemi. Deux personnes ont été tuées dans un échange de coups de feu mercredi devant le consulat américain Jeddah en Arabie Saoudite. Et en France, 150 personnes ont été arrêtées par la police lors de violentes manifestations contre la mort de Naël, tué par un tir policier à Nanterre. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le commandant des forces de défense aérienne de l'armée iranienne a annoncé des plans pour que son unité fabrique des équipements militaires sophistiqués à longue portée pour faire face aux menaces potentielles de l'ennemi. Parallèlement aux menaces potentielles et aux éventuels défis, la production d'équipements avancés de radars, de missiles et de drones à longue portée est définitivement à l'ordre du jour de la force de défense aérienne de l'armée iranienne cette année, a déclaré mercredi 28 juin le général de brigade Alireza Sabahi Fard. Le contrôle total actuel des frontières aériennes du pays manifeste l'observation et la surveillance minutieuse effectuées par des ingénieurs et des spécialistes dans des milliers de points de défense aérienne à travers le pays, a-t-il dit. Les efforts 24 heures sur 24 des gardes-frontières aériens iraniens garantissent la paix pour les citoyens, a ajouté le général de brigade Sabahi Fard. Il a également déclaré que la force de défense aérienne de l'armée est bien développée aujourd'hui. Et cette croissance et cette puissance ont été rendues possibles grâce à la volonté et aux efforts de la jeunesse dans divers domaines des sciences de la défense aérienne. Ces dernières années, les experts et techniciens militaires iraniens ont fait des progrès substantiels dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes. L'Iran a intenté une action en justice contre le gouvernement canadien devant la Cour internationale de justice, CIJ, en tant que principal pilier judiciaire des Nations unies en raison de la violation de l'immunité internationale du gouvernement iranien. Le dossier de l'Iran devant le tribunal exige également une compensation de la part du Canada. Il indique d'ailleurs que le Canada a suivi ce mauvais processus malgré les protestations successives de la République islamique. Mais l'Iran a une fois de plus montré sa soumission à sa position de principe dans le règlement pacifique des différends et son engagement envers la primauté du droit dans les relations entre les pays, exprimant d'ailleurs l'espoir que le Canada reverrait son approche politique et qu'il cesserait de violer ses engagements. Téhéran a déclaré que le Canada avait violé le droit international par des décisions illégales de remettre des actifs iraniens aux victimes de diverses attaques que le Canada impute à des groupes soutenus par l'Iran. La déclaration du gouvernement iranien a également rejeté les fréquentes accusations du Canada selon lesquelles l'Iran soutient le terrorisme et viole les droits humains. La déclaration de la République islamique indique que le Canada a systématiquement violé les droits de l'homme, qu'il a soutenu les politiques étrangères dominatrices et interventionnistes des États-Unis et qu'il a agi en tant que complice dans les crimes inhumains perpétrés par le régime israélien en Palestine et en Asie du Sud-Ouest. L'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran a condamné avec véhémence le nouveau feu vert donné par la Suède à un acte de profanation du Saint-Coran. Dans un cas répété et autorisé par l'État suédois du sacrilège contre le livre sacré des musulmans, deux hommes ont brûlé une copie du livre sacré des musulmans devant la mosquée centrale de Stockholm dans un rassemblement autorisé par la police suédoise ce mercredi 28 juin, au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. La fête du sacrifice marque la fin du pèlerinage annuel du Hajj, auquel participent des millions de musulmans du monde entier. S'exprimant jeudi 29 juin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a dénoncé dans les termes les plus forts l'autorisation du gouvernement suédois de répéter un tel acte de profanation par des islamophobes basés en Suède. La Suède a ouvert la voie à la répétition des actes offensifs contre les saintetés divines, en particulier pendant les cérémonies musulmanes et la participation de millions de personnes au rassemblement international du Hajj. Et cela est permis comme un acte inacceptable et provocateur. Kanani a souligné : les actes de profanation des livres saints sont un exemple de la tendance à inciter à la haine et à confronter les valeurs originelles des droits de l'homme. Enfin, il a conseillé aux responsables suédois d'empêcher à l'avenir la répétition d'actes insultants contre les saintetés des autres pays et de prêter une attention particulière au principe de responsabilité dans ce domaine. Deux personnes, dont l'assaillant, ont été tuées dans un échange de coups de feu mercredi 28 juin devant le consulat américain Jeddah en Arabie Saoudite, ont annoncé les autorités du royaume. Un homme muni d'une arme à feu s'est arrêté près du bâtiment du consulat à Jeddah, suscitant un échange de tirs avec des responsables de la sécurité, a rapporté mercredi l'agence de presse saoudienne. À 18h45 heure locale, 15h45 GMT, un homme s'est arrêté en voiture devant le bâtiment du consulat avant de descendre de la voiture avec une arme à la main, indiqué l'agence de presse SPA, citant un porte-parole de la police. Les forces de sécurité ont réagi. Suite à un échange de tirs, l'assaillant a été tué. Un agent de la sécurité privée du consulat, un ressortissant népalais, est également mort des suites de ses blessures. L'attaque s'est produite à un moment où l'Arabie saoudite accueille quelque 1,8 million de musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj dans la ville sainte de la Mecque, à environ 70 km de Jeddah. Le consulat américain dans la ville côtière de Jeddah, sur la mer Rouge, a déjà fait l'objet d'attaques dans le passé, notamment le 4 juillet 2016. Un individu s'est fait exploser le jour de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Une autre attaque a eu lieu en décembre 2004, faisant 5 morts. Des dizaines de soldats de réserve de l'armée de l'air israélienne ont annoncé mercredi 28 juin qu'ils quitteront leur service si le cabinet sioniste fait avancer le plan controversé de réforme judiciaire. 110 anciens soldats de l'armée de l'air israélienne ont signé une lettre avertissant que si les amendements aux lois judiciaires ou tout autre projet lié à cette question sont approuvés par le Parlement de ce régime, les forces de réserve cesseront de servir, a écrit le journal Al-Arabi Al-Jadid, citant les médias israéliens. Peu après son entrée en fonction, le cabinet israélien dirigé par Benjamin Netanyahou a présenté le 4 janvier de cette année un plan de réforme du système judiciaire qui a suscité une vague de protestations dans les territoires palestiniens occupés d'Israël. Jugé depuis des années pour corruption, fraude et abus de confiance, le premier ministre israélien entend clore ses dossiers par le biais de ce qu'il appelle « réforme judiciaire ». À la suite des tentatives du cabinet du régime sioniste de mettre en œuvre des réformes judiciaires, les territoires palestiniens occupés, en particulier ces villes importantes telles que Tel Aviv et Haïfa, sont confrontés à une série de manifestations qui durent depuis 25 semaines consécutives. Le plan que le cabinet de Netanyahou tente à faire adopter réduirait les pouvoirs du système judiciaire au profit du pouvoir exécutif et législatif. De très nombreuses villes d'Île-de-France, mais également de province, ont été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi de vives violences dans les quartiers populaires après le décès du jeune Naël, tué par un tir policier à Nanterre. Le phénomène de contagion est très largement entamé et le mouvement de révolte parti du département des Hauts-de-Seine s'est très rapidement répandu à travers le pays. Selon un bilan encore provisoire de la nuit, les forces de l'ordre ont arrêté 150 personnes dans toute la France. Le policier à l'origine du tir qui a tué Naël est toujours en garde à vue ce jeudi matin. L'utilisation de la force létale par des policiers contre l'adolescent d'origine nord-africaine alimentait une perception profondément enracinée de la brutalité policière dans les banlieues ethniquement diverses des plus grandes villes de France. À Nanterre, où Naël a été tué, la situation est restée relativement calme jusqu'à 23 heures. Des manifestants ont tiré des feux d'artifice sur la police et incendié des voitures dans la banlieue ouvrière parisienne de Nanterre dans une deuxième nuit de troubles après la mort par balle de ce garçon de 17 ans, lors d'un contrôle routier. Peu avant minuit, une traînée de véhicules renversés a brûlé alors que des feux d'artifice pétillaient sur les cordons de police de l'avenue Pablo Picasso à Nanterre. La police a affronté des manifestants dans la ville de Lille, dans le nord, et à Toulouse, dans le nord-ouest, et des troubles ont également eu lieu à Amiens, Dijon et dans le département administratif de l'Essonne, au sud de la capitale française, a déclaré un porte-parole de la police. Les médias français ont signalé des incidents dans de nombreux autres endroits de la région parisienne. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de feux d'artifice dirigés vers la mairie de Montreuil, à l'est de Paris. De nombreux incidents ont eu lieu dans des communes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, avec des tirs de fusées d'artifice nourris, des véhicules ainsi que des poubelles incendiées. Le gouvernement malien va prendre toutes les dispositions pour que le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, se réalise de façon ordonnée et sécurisée dans le délai le plus court possible, a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Selon une note publiée mercredi par son bureau de l'information et de la presse, M. Diop s'exprimait mardi lors d'une rencontre d'échange et d'information avec le groupe des ambassadeurs africains et les représentants des organisations africaines autour de la question du retrait de la MINUSMA du Mali. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Occident impliqué dans l'attaque chimique à Sardasht. La cérémonie de commémoration des victimes de l'attaque chimique contre la ville de Sardasht dans le nord-ouest de l'Iran par le régime de Saddam Hussein s'est tenue ce mercredi 27 juin au Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, où le message du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian a été lu. Dans ce message, à l'occasion du 36e anniversaire du bombardement chimique de Sardasht, il a rendu hommage à la dignité de tous les martyrs des armes chimiques du pays et a honoré leur sacrifice. Il a demandé au Dieu Tout-Puissant le prompt rétablissement de tous les mutilés de guerre victimes d'armes chimiques, notamment les femmes. L'histoire de la défense sacrée regorge des pages d'or de la défense héroïque et de la résistance victorieuse de la nation iranienne contre l'agression, ainsi que des séquelles et des blessures laissées par les atrocités et la lâcheté de l'ennemi, parmi lesquelles les blessures et les souffrances causées par les armes chimiques sont les plus douloureuses et nous rappellent un crime que la conscience humaine éveillée n'oubliera jamais. Peut-on lire dans ce message. Il existe des preuves valables et indéniables de la large participation et implication de certains pays occidentaux, en particulier l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et les États-Unis, dans la perpétration de ces crimes en équipant le régime de Saddam Hussein d'armes chimiques et en l'aidant à les utiliser contre le peuple iranien. À titre d'exemple, les installations de production d'armes chimiques ont été construites à Samara et Fallujah en Irak avec la participation du ministère allemand de la Défense. Elles sont passées à la phase de production avec des cargaisons chimiques délivrées par les États-Unis et les armes chimiques produites ont été utilisées par des armes de combat françaises contre des citoyens iraniens, souligne-t-il. Selon le ministre, l'une des dimensions les moins visibles du crime d'utilisation d'armes chimiques contre l'Iran était son emploi à grande échelle contre des villes et des civils, en particulier des femmes sans défense et des enfants innocents, qui s'est soldé par la mort à martyr de milliers de personnes. Des dizaines de milliers d'autres ont été blessés, dont beaucoup souffrent encore jour et nuit à cause de ces effets. L'ironie amère est que les prétendus défenseurs des droits de l'homme se sont fait passer pour soutenir les femmes et les filles iraniennes en 2022, et ce, sous la forme d'une guerre combinée vicieuse contre l'Iran. Ils ont eu recours à des mensonges désuets comme ceux utilisés lors du bombardement chimique de Sardasht et de ses villages avoisinants. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire des milliers de victimes de l'attaque chimique de Sardasht. Et 36 ans après cette catastrophe, les poursuites judiciaires internationales du gouvernement iranien pour la réhabilitation des droits bafoués des martyrs et des survivants, la condamnation et la punition des auteurs et des sponsors de ce crime n'ont abouti à aucun résultat en raison des tergiversations évidentes des gouvernements occidentaux, indique Amir Abdullayan dans son message. Néanmoins, poursuit-il, je voudrais souligner et clarifier que le gouvernement de la République islamique n'oubliera pas et ne pardonnera pas les auteurs de ces crimes et leurs complices. Ces crimes ont été commis en violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et du protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des gaz toxiques et engagent la responsabilité internationale et tous leurs agents et auteurs doivent être tenus responsables de leurs actes inhumains. Les obstacles au processus de poursuite des droits des victimes d'attaques chimiques ne pourront pas réduire la responsabilité internationale des gouvernements concernés et ne saperont pas notre détermination à défendre nos droits. L'embargo sur les médicaments dont ont besoin les survivants de l'attaque chimique est l'une des répercussions des crimes des pays occidentaux. Ces sanctions sont l'un des exemples flagrants des crimes contre l'humanité. Cependant, malgré toutes les restrictions causées par les sanctions, les efforts du gouvernement pour fournir des services médicaux aux survivants du bombardement chimique se sont poursuivis sérieusement. En plus, en coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Téhéran cherche à mettre à la disposition des autres pays les expériences uniques et précieuses de la communauté médicale iranienne dans le traitement des personnes blessées par des armes chimiques. À cet égard, l'Iran accueillera en octobre, pour la 11e fois, la réunion internationale sur les dimensions médicales de l'assistance et de la protection contre l'utilisation d'armes chimiques. En tant que plus grande victime de l'utilisation des armes chimiques à l'époque contemporaine, la République islamique d'Iran condamne l'emploi d'armes chimiques partout dans le monde, par quiconque et en toutes circonstances, et renouvelle une fois de plus son attachement à la création d'un monde exempt d'armes chimiques. Aujourd'hui, la réalisation complète des objectifs de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques dépend dans une large mesure de la destruction complète des armes chimiques américaines et de l'adhésion immédiate et inconditionnelle du régime sioniste à cette convention, ainsi que de son application effective, intégrale et non discriminatoire, en particulier dans le domaine du développement de la coopération internationale en matière d'utilisation de produits chimiques à des fins pacifiques, a fait remarquer le patron de la diplomatie iranienne.
Thank you. Eh bien voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, qui est avec nous depuis Vaucluse. Il est expert des questions internationales. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Un plaisir donc d'être avec vous. Un grand bonjour à Jean-Maxime Corneille, qui est avec nous depuis Versailles. Monsieur Jean-Maxime Corneille, bonjour.
Bonjour Téhéran, bonjour, merci encore à vous.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Corneille. Alors, le guide suprême de la révolution islamique a beaucoup mis l'accent sur l'unité, les aspects spirituels et pratiques, sur la coopération des pays qui ont des ennemis communs. Donc, beaucoup de sujets à aborder dans ce message annuel par le guide suprême de la révolution islamique. Que pensez-vous, je vous prie, Monsieur Corneille?
Alors c'est pour moi le vrai sujet de notre temps, ou plus précisément la redécouverte du sujet le plus fondamental en réalité auquel globalement l'humanité est confrontée. C'est une très vieille lutte dans l'histoire de l'humanité que globalement cette dualité entre le bien et le mal. L'Iran en est justement un pays très particulièrement intéressant parce qu'en réalité c'est dans la lutte contre le mal globalement que nous sommes obligés de nous poser la question de savoir pourquoi nous combattons. C'est-à-dire que les suppôts du mal savent toujours pourquoi ils combattent. Le problème, c'est que c'est une guerre qui a besoin de soldats et seuls les méchants savent qu'ils la mènent en réalité. C'est-à-dire que si l'on perd cette autodiscipline spirituelle qui fait que nous oublions qui nous devons servir, ou plus précisément que nos énergies sont un enjeu, et que nous devons les mettre au service d'une bonne cause, eh bien il n'y a globalement que les méchants qui savent pourquoi ils agissent. Et personnellement, c'est notamment en lisant les mémoires du général Wrangel, général russe durant la guerre civile en Russie, qui avait vécu en fait le moment où il a dû endosser la responsabilité de la défaite de la Russie blanche. Il a été béni par le triple clergé, catholique, orthodoxe et musulman, en Crimée. Et il le racontait lui-même que c'est cette bénédiction qui lui a donné la force d'endurer. Et en réalité, c'est le grand drame de la France aujourd'hui, la déspiritualisation. Jung parlait d'un monde spirituellement sous-alimenté. C'est le grand drame de la France d'aujourd'hui que d'être spirituellement sous-alimenté et de ne plus savoir réellement pour quoi elle existe et pour qui elle doit combattre aujourd'hui. Donc voilà pour mon sujet d'ouverture.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Bernard Cornu. Est-ce que je vous ai parlé, je vous prie?
Oui, tout à fait.
Allez-y.
Oui.
Alors que
j'ai lu ce discours du leader Khamenei. C'est très intéressant. C'est une haute tenue philosophique et humaine. Moi-même, je suis un peu en dehors des religions, bien que j'ai vécu dans beaucoup de situations religieuses. Mais ce discours philosophique qui engage à l'unité, qui engage à l'écoute mutuelle, est très important. Et aussi qui engage aussi à se méfier des tentatives extérieures pour provoquer des divisions entre les communautés diverses du monde et surtout de la région. J'ai aussi apprécié la référence à une période dont je connais bien l'histoire, c'est la période après la guerre mondiale, ce que j'appelle moi la guerre européenne de 1914, dans laquelle il y a eu ce que le leader Khamenei appelle de l'ingénierie géopolitique pour diviser les communautés de la région du Moyen-Orient, créer des États selon leurs vœux, selon leurs intérêts économiques, et ceci est un exemple historiquement daté, mais bien connu, bien analysé, sur les tentatives de l'extérieur pour diviser les communautés du Moyen-Orient, selon les régions, les ethnies, les sectes et toutes les différences, les langues. Donc ceci fait effectivement, il faut être très attentif pour éviter ce qui s'est passé depuis quelques décennies aussi, pour continuer à diviser le Moyen-Orient sur les intérêts de puissances extérieures ou implantées à l'intérieur.
Absolument. Monsieur Corneille, le guide suprême de la révolution islamique parle bien sûr du Hajj, non pas comme un simple pèlerinage, mais plutôt comme une arme à l'encontre des puissances oppressives et dominatrices. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Bien, nous avons vu que, alors là, c'est une vieille histoire qu'il faudrait en effet retracer depuis globalement, en effet, la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les divisions ont été artificiellement orchestrées et que la création historiquement sous égide britannique de l'Irak et de l'Arabie saoudite s'est assortie d'une situation d'otage de l'Arabie. Et il est extraordinairement important de constater en ce moment qu'en sous-main a lieu une réconciliation de l'Iran et de l'Arabie, c'est-à-dire surtout une prise de conscience que depuis des décennies, depuis plus d'un siècle, les divisions de cette région ont en effet été organisées, comme le disait Bernard Cornu, et elles ont été organisées historiquement pour des raisons pétrolières, mais également pour des raisons religieuses ou pseudo-religieuses. C'est-à-dire que, rappelez-vous que la France a été le premier État occidental à dénoncer cette utilisation artificielle, cette création artificielle du terrorisme soi-disant musulman, djihadiste ou wahhabite à l'époque, et que c'est ce terrorisme-là qui a été utilisé au-dessus de l'Arabie saoudite par les anglo-américano-israéliens. Face à cela, face à des motivations qui sont réellement anti-spirituelles, et en réalité ce sont des motivations qui ont au moins 5 siècles, disons qu'ils se sont aggravés depuis 5 siècles et la naissance du capitalisme dit moderne, eh bien c'est une respiritualisation, une reprise de conscience et en même temps une réunion du monde musulman qui s'opère à partir de la Mecque et aujourd'hui le symbole, on l'a vu récemment, des dirigeants du Hamas à la Mecque faisant leur pèlerinage dans un contexte de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, est un énorme message envoyé, un message qui est la suite de ce que le grand général iranien Soleimani, avait mis en place, c'est-à-dire un rapport de force qui permet un changement de l'agenda diplomatique, mais ce rapport de force doit être basé sur une conscience spirituelle, c'est-à-dire la question de savoir, non pas tant la violence, mais la violence à quelle fin et pour contrer quoi. C'est-à-dire que l'Iran a eu un rôle absolument stratégique dans cette préservation du Moyen-Orient avec la Russie, et l'Arabie peut enfin sortir d'une situation d'otage dans laquelle elle était plongée depuis un siècle. Et ce sont des faits historiques qui sont en effet sous-tendus par une lecture spirituelle et par une respiritualisation nécessaire après des décennies, voire un siècle, de manipulation antispirituelle au Moyen-Orient. Donc tout ceci est très positif, mais je pense que il faut cette double lecture à la fois diplomatique, géostratégique d'une part, et spirituelle d'autre part.
Absolument. Bernard Cornu, que veut dire à votre avis M. Cornet quand il parle du rapport de force ?
C'est le rapport de force, si j'ai bien compris, opéré par disons, les puissances, les empires de l'époque du début du XXe siècle. L'Empire britannique, l'Empire tsariste, l'Empire américain, ce n'était pas un empire, mais la puissance américaine, l'Empire français aussi, l'Empire allemand, l'Empire autrichien, austro-hongrois, se battaient entre eux, ou parfois faisaient des alliances, pour pouvoir mieux contrôler le Moyen-Orient, comme ils souhaitaient contrôler l'Afrique, l'Asie, en ayant fait des colonies, en les contrôlant, et parfois en faisant des accords pour limiter leur sphère d'influence. Et donc, dans cet Moyen-Orient qui était riche en pétrole, on le savait depuis des études allemandes qui ont été autrichiennes et allemandes dès le début du siècle, on savait que c'était une richesse importante et ça a été un objectif de tous les empires dans cette guerre-là. Et donc, ils ont cherché à diviser. Par exemple, moi qui connais bien cette période de l'histoire, on sait maintenant très précisément que les Britanniques, voulant s'opposer aux Allemands, ont armé les princes d'Arabie pour pouvoir se battre contre les Allemands, empêcher que des caravanes d'approvisionnement d'armes atteignent l'Empire ottoman ou les Allemands. Donc, et d'autre part, dans une période plus récente, à partir des années 1950, et à part même 58, après la révolution en Irak, les Britanniques ont soutenu des partis d'obédience chiite contre le régime en place en Irak. Et donc, chaque fois On peut parler aussi des menées des sionistes qui ont manipulé des hommes politiques en Iran dès 1950 pour obtenir la reconnaissance de facto de l'Iran envers le régime sioniste, envers Israël. Et ça a été semblable dans d'autres pays, beaucoup de manipulations, de divisions, de soutien d'un parti opposant, comme ça a été fait envers le djihadisme sunnite, qui a été soutenu par certaines puissances du Golfe, très riches, et aussi en collusion avec soit la Turquie, soit l'Empire américain, ou même les autres occidentaux. Donc toutes ces manipulations sont très dangereuses, ce que le Khamenei appelle des manœuvres sédition. Il faut s'en méfier, il faut les dénoncer et il faut toujours rechercher le dialogue et l'unité pour prévenir les conflits qui amèneraient à des divisions et qui ont amené à des guerres au Moyen-Orient.
Absolument. Jean-Maxime Corneille, nous avons une grande impression, et c'est vrai d'ailleurs, que les puissances oppressives font tout pour minimiser l'importance du Hajj chaque année. Alors que le Hajj fait son travail, comme par exemple la cause palestinienne, qui est une cause très importante et défendue par beaucoup de pays musulmans. Que pensez-vous, je vous prie ?
Je n'ai pas exactement compris la question, je vous prie de m'excuser.
Oui, je vous en prie. Les puissances hégémonistes et oppressives font tout pour minimiser l'importance du Hajj. Et ils réussissent plus ou moins, mais certains pays, dont l'Iran par exemple, a fait tout pour donner de l'importance à du Hajj, comme par exemple défendre la cause palestinienne. Que pensez-vous, Jouk?
D'accord, je comprends. Le Hajj en tant que vecteur spirituel permettant des évolutions diplomatiques. Comme je le disais tout à l'heure, il y a en fait une histoire du monde à comprendre qui prend la suite du propos de Bernard Cornu au sujet du pétrole. Il y a 5 siècles d'histoire du capitalisme dit moderne, c'est-à-dire du capitalisme qui a dévié vers la pure prédation mondialiste. En réalité, vous avez eu l'opposition à partir de la Renaissance entre un capitalisme totalement anti-spirituel basé sur la prédation d'une part, et d'autre part des modèles de développement qui n'étaient que des modèles de développement économique et qui auraient été sains, sauf qu'il y avait donc un duel entre deux modèles différents, et c'est le pire des deux qui a gagné, c'est-à-dire le modèle dit britannique, historiquement britannique, mais en réalité un modèle mondialiste. C'est ce modèle-là qui, lorsqu'il a découvert l'importance absolument stratégique du pétrole, a continué en fait sa logique de prédation à l'échelle du monde, celle de l'Empire britannique, qui était alliée en réalité avec les réseaux commerciaux juifs internationalistes, ce qui est l'origine de la surpuissance de l'Empire britannique à partir de la Renaissance. C'est documenté par des historiens juifs eux-mêmes, notamment Cecil Roth en 65 de mémoire. À partir de cette idée-là, vous avez donc le retour de cette vieille histoire qui est la prohibition de l'usure. La prohibition de l'usure qui se retrouve dans le Coran de façon très claire, dans la Bible aujourd'hui de façon bien moins claire, et les églises chrétiennes l'ont malheureusement bien souvent oublié, parce qu'elles ont en réalité subi des déstabilisations absolument terribles et des infiltrations subversives. Et le judaïsme lui-même est beaucoup moins clair avec ça. Nous avons eu récemment, il y a 3-4 ans, le trader devenu rabbin Yaron Roiven, un juif ayant pris conscience du fait que l'usure sur laquelle est basé le système financier mondial dans lequel les juifs ont un grand rôle est en réalité une négation de toute espèce de spiritualité et est basée sur une modification artificielle de la Torah. Nous avions donc un trader juif repenti devenu rabbin qui expliquait de façon très dure à ses coreligionnaires que la modification de la Torah, c'est-à-dire l'autorisation de l'usure contre les goyims, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, a entraîné des conséquences très néfastes pour le monde, qui d'ailleurs prépare des pogroms massifs, et que les vrais pogroms ont toujours été liés à l'usure, aux excès usuraires des juifs. Ça, c'est une prise de conscience juive très importante, et dans le contexte actuel, dans le contexte d'un atterrissage en douceur du Moyen-Orient, je sais de source sûre que les initiés, tant d'Iran que d'Arabie, ont aujourd'hui à cœur de bâtir la paix qu'ils n'ont pas vue depuis plus d'un siècle. Dès après la Première Guerre mondiale, il y eut un grand soulèvement et une alliance entre les chiites et les sunnites. Une insurrection de 100 000 combattants matée en 1921 par les Britanniques. Churchill disait « c'est très bien de mettre des gaz de combat contre des populations civiles, ce sont des sauvages, il n'y a pas de problème ». Non, non, nous parlons d'une civilisation qui a 6000 ans au bas mot. L'ancienne Sumer et également la civilisation persane, les grandes racines civilisationnelles ont été détruites et violées par ce capitalisme mondialiste qui est un accident de l'histoire occidentale. Face à cela, ma conclusion est donc que une respiritualisation du monde est absolument nécessaire pour remédier à ce que Solzhenitsyn avait diagnostiqué dans son discours de Harvard, c'est-à-dire qu'en Occident, le droit a été déconnecté de la morale parce que nous avons oublié la religion qui nous relie à quelque chose de supérieur sans lequel nos actes ne sont pas guidés. C'est cette guidance dont parle le Coran qu'aujourd'hui l'Occident a perdu par suite d'une savante subversion et le monde musulman y résiste aujourd'hui bien mieux avec une nouvelle union qui peut apporter la paix au Moyen-Orient. Ce sont des,
oui,
des moments historiques que nous vivons sous nos yeux. Voilà.
Absolument. Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Corneille? Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui. Oui, ce rappel historique sur les aspects de financement, d'investissement commun, sur l'interdiction de l'usure, est très intéressant et sur ce qui s'est passé dans le développement du capitalisme. C'est vrai qu'en France, quand on parle des aspects du Coran sur l'interdiction de l'usure ou des taux d'intérêt, c'est présenté de façon négative, mais il faut aussi le présenter de façon positive, en dire que ce que cela signifie, c'est que quand il y a un investissement de différentes parties, ils doivent essentiellement partager les risques en même temps qu'ils vont partager les bénéfices. Et ceci est très positif, et cette finance dite islamique en Occident a des aspects très positifs, à tel point il faut rappeler que le général de Gaulle, le président français, en 1969, voulait introduire ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire que les employés d'une entreprise devaient participer aux bénéfices comme ils participaient au travail. Et d'ailleurs, même si à l'époque ça a été refusé parce que peut-être il y avait des oppositions politiques et certains ont voté contre le général de Gaulle à l'époque, peut-être pour d'autres motifs, alors qu'aujourd'hui, le président français, le nouveau président français, Macron, veut réintroduire dans la législation, dans nos lois, ce principe de participation des employés de l'entreprise aux bénéfices potentiels, comme ils participent au risque, puisque si l'entreprise fait faillite, ils vont perdre leur travail. Donc ce principe de solidarité face aux investissements est un principe ancien dans les communautés unies et on essaye de le remettre aujourd'hui dans nos communautés modernes qui ont oublié souvent ces principes face au développement de la finance qui... souvent manipule les choses, l'information, au détriment de ceux qui investissent ou qui participent à cet effort-là. Donc ces principes d'éthique sont importants et effectivement, ils viennent de notre religion de l'islam et aussi de la religion chrétienne qui a souvent insisté aussi sur cette nécessité de solidarité dans les efforts.
Bernard Cornu, expert des questions internationales, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Dans l'émission Le Débat, un grand merci à Jean-Maxime Corneille qui nous a accompagnés depuis Versailles et expert des questions internationales. Merci pour avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 37 à 50 du chapitre 44 du Noble Coran, la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée. Restez avec nous jusqu'à la fin de la voie de la lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu les versets de la sourate 44 du Noble Coran qui nous ont appris qu'après la mort du Pharaon et de ses hommes, noyés dans la mer, Dieu le Très-Haut fit qu'un autre peuple, les Israélites, en hérite. Après la noyade du Pharaon et de ses hommes, les Israélites rentrèrent en Égypte et s'attribuèrent leurs biens et leurs richesses, et ils gouvernèrent l'Égypte pendant un temps. Les mécréants rejettent la résurrection et la vie éternelle dans l'autre monde. Les mécréants de la Mecque se raillaient du noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de demander à son Dieu de ressusciter leurs ancêtres pour qu'ils puissent croire à la résurrection. Or, selon les enseignements coraniques, la résurrection est un élément de la justice divine pour que les croyants et les mécréants soient récompensés ou châtiés, les uns comme les autres, pour leurs actes. Ces versets nous apprenaient que le Coran relate souvent les dires des mécréants pour leur répondre et renforcer ainsi la foi et les croyances des fidèles. Le rejet de la résurrection et de la vie éternelle dans l'au-delà après la mort ne se fonde sur aucun argument logique. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 37 de la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée, puis nous vous en donnerons la traduction. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce que vraiment ils étaient criminels. Le Saint-Coran s'adresse en fait aux païens de la Mecque qui s'obstinaient à nier la mission prophétique du noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Qui était plus puissant, les païens de la Mecque ou le peuple qui vivait autrefois au Yémen, dans le sud de la péninsule arabique? Ainsi, le Livre Saint avertit les mécréants contre les conséquences de leur désobéissance. Ces versets nous apprennent que le Coran relate, dans de nombreux versets, le récit des peuples anciens pour donner des exemples et des leçons à tirer pour la génération actuelle et les générations futures. Le Livre Saint met particulièrement en garde contre les actions qui peuvent propager la corruption, l'oppression et les crimes au sein de la société. Voici maintenant les versets 38 et 39 de la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux.
Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le Coran évoque la question de la résurrection et souligne que Dieu le Très-Haut n'a pas créé l'univers sans un but précis. Cependant, les mécréants l'ignorent et s'obstinent dans leur perdition. Ils ignorent que la création n'est pas un divertissement. Pour eux, la mort serait la fin définitive de l'existence humaine. Ces versets nous apprennent que si la mort était la fin de l'existence humaine, la création de l'homme aurait été dépourvue de tout sens. Par contre, la création divine a des buts précis que les humains doivent essayer de comprendre. L'une des raisons de l'obstination des mécréants à nier la résurrection et la vie éternelle dans l'au-delà est l'ignorance par rapport au but de la création divine. Voici maintenant les versets 40 à 42 de la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous, le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui qui Dieu fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Le jour de la résurrection est le jour de la séparation entre l'être humain et tout ce qui le liait à la vie matérielle, aux parents, aux enfants, aux richesses, aux plaisirs, aux amis, aux liens familiaux et sociaux, etc. Ces versets nous apprennent que le jour de la résurrection est le jour où chaque individu reprendra vie et se trouvera tout seul devant le Créateur. La résurrection est une vérité absolue et une tradition divine dont rien ne pourra empêcher la survenance. Au jour de la résurrection, les gens auront affaire uniquement à Dieu le Très-Haut. Chaque individu sera ainsi jugé, récompensé ou châtié en fonction de ses actes et de ses croyances. Écoutons enfin les versets 43 à 50 de la sourate 44 du noble Coran.
Inna shajarat al-zakkum ta'am al-athim kal-muhli yaghli fil-butun kaghli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'i al-jahim.
Certes, l'arbre de Zakkum sera la nourriture du grand pêcheur, comme du métal en fusion. Il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise. Qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Voilà ce dont vous doutiez. Le noble Coran décrit les châtiments réservés aux rebelles et aux criminels dans l'enfer. En réalité, les humains ne peuvent jamais imaginer que le feu qui brûlera les pécheurs dans l'enfer n'est pas de la même qualité et de la même nature que le feu qui existe dans ce bas monde. En outre, il n'y aura aucun refuge pour les condamnés qui resteront éternellement dans l'enfer. Ces versets du noble Coran nous apprennent que le feu qui brûlera les condamnés dans l'enfer représente en réalité les péchés qu'ils ont commis eux-mêmes dans ce bas monde. L'homme sera ressuscité dans l'autre monde, dans son corps et dans son âme. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 44 du noble Coran, la sainte sourate Ad-Dukhan, la fumée. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Mm-hmm.